Mes frères et sœurs, je voudrais vous proposer quelques lectures dans la Bible. Tout d'abord dans l'Évangile selon Matthieu, parce que Jésus, fils de Dieu, est aussi prophète et il exerce un ministère de prophète. Il est plus grand que Jean-Baptiste, plus grand que tous les autres. Et voici le regard qu'il nous donne dans Matthieu chapitre 24, si vous le voulez bien. Nous lirons ensemble à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Évangile selon Matthieu, chapitre 21. Chapitre 24, ça c'est pas le virus, hein, c'est moi. Hein. Chapitre 24, verset 21, merci. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, et à cette parole de Jésus, nous pouvons dire tous Amen. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas venus ici pour que nous vous disions, nous vous rappelions que nous vivons dans un monde qui subit une grande crise, une crise mortelle. Comme le disait le pasteur Célestine tout à l'heure, un ennemi qu'on ne voit pas, mais qui rôde autour de nous, un peu comme Satan cherchant qui, non pas il dévorera, mais contaminera. Or, ce qui est important à comprendre, frères et sœurs, c'est que l'Évangile, qui est une puissance, qui est la puissance de Dieu pour le salut de tout le monde, a toujours rencontré de l'opposition. Tenez, au début de l'Évangile, quand Jésus l'a prêché l'Évangile, au bout de 3 ans et demi, il s'est retrouvé sur la croix. C'était voulu de Dieu pour le salut de notre âme, mais c'était le produit des hommes, ils l'ont crucifié. Les premiers chrétiens ont été jetés en prison. Sous les Césars et sous Néron, cet empereur fou, ils ont été mis avec les lions. Néron leur a mis le feu, les a brûlés. D'autres ont été sciés, torturés. Il y a eu une période de persécution. Mais la persécution n'a pas étouffé l'Évangile. Plus on persécute l'Évangile, plus l'Évangile progresse. Alléluia. Attendez. Donc le début, c'était la persécution. Ensuite, ça a été la contagion entre le monde et l'Évangile, ce qui a donné au monde l'institution de l'Église chrétienne, que je n'ai pas la peine de nommer, et qui existe partout. Confusion, un petit peu de monde, un petit peu de foi, un mélange de paganisme et d'idolâtrie, des images taillées, etc., etc. Donc il y a eu cela, mais l'Évangile a encore triomphé. Persécution, l'Évangile triomphe. Contagion, l'Évangile triomphe. Et nous, aujourd'hui, en 2020, n'avons pas trop de persécutions encore dans notre pays, ça peut venir. Mais nous sommes attaqués par un autre virus, encore plus terrible que le Covid. C'est ce virus que j'appellerais non pas persécution, non pas contamination, je l'appellerais séduction. Actuellement, le monde est sous la puissance de celui qui séduit. Séduit qui ? Les chrétiens. Car Jésus l'a dit au verset 14, au verset 24, ils feront de grands prodiges, ces faux prophètes, au point de séduire C'est lui, des élus. Or, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui doit nous permettre de pouvoir résister à la séduction? Il y a une église à Paris qui a été créée il y a quelques années, qui s'appelle l'Église de Dieu Tout-Puissant. C'est une femme qui dit qu'elle est le Christ réincarné, que la Bible, c'est un livre dépassé, qu'il ne faut plus croire tout ça. Et malheureusement, des croyants se font avoir et vont dans ces genres de sectes. Nous sommes dans un monde de séduction. Et ça, c'est un virus spirituel qui essaye de coller à notre peau. Mais regardez, on va prendre quelques exemples vite. Chaque fois que Satan a voulu séduire, chaque fois, il a été démasqué. Et chaque fois, il a été vaincu. Et chaque fois, Jésus a été vainqueur. Prenons un exemple rapide, si vous le voulez. Ils sont à Jérusalem, dans l'église primitive. Dieu faisait de grands miracles et de bénédictions. L'église grandissait. Et un homme, touché dans son cœur, vend son champ et l'apporte aux pieds des apôtres pour l'œuvre de Dieu. Tout le monde pouvait dire Alléluia. Puis là, il y a un couple, Ananias, Saphira. Ils ont voulu paraître, ils ont voulu séduire, ils ont voulu montrer que eux aussi, ça s'appelle de l'hypocrisie. Mais la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Pierre et l'Église ne s'est pas laissé prendre, ils ont dénoncé, et vous savez comme moi, comment ça a fini. Qui c'est qui a gagné, Jésus-Christ ou Satan? Ça fait combien en match de foot? Ça fait un? Allez, les supporters du PSG, je ne sais pas quoi. Ça fait combien? 1-0, béni soit Dieu. Mais attendez, ça va plus loin. Ensuite, l'évangéliste Philippe bat en Samarie. Dieu faisait des miracles extraordinaires. Et il baptise même quelqu'un qui, pendant longtemps, faisait des miracles extraordinaires. Un certain Simon, le magicien. Et quand il a vu tout ça, il est allé voir Pierre, il a sorti sa carte bancaire, enfin il n'y en avait pas à l'époque, et lui dit, je te donne de l'argent si tu me donnes le pouvoir du Saint-Esprit. Non mais vous rendez compte, ça encore, c'est une séduction. Pierre a réalisé que c'était une séduction, et qui c'est qui a gagné, Satan ou Jésus? Ça fait combien de buts ça? Bon, très bien, on continue. Ils vont à Chypre. L'apôtre Paul va à Chypre. Il annonce la parole de Dieu à un grand pontife romain. Et il nous est dit qu'un prophète juif du nom de Bar Jésus, Elimas, faisait opposition au message de l'apôtre Paul. Mais Paul ne s'est pas laissé avoir, Paul ne s'est pas laissé prendre, Paul ne s'est pas laissé séduire. Au nom du Seigneur Jésus, le faux prophète, ce menteur, a été marqué dans sa chair, il est devenu aveugle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça fait combien de victoires? Bon, vous êtes sûr? Allez, on va aller un tout petit peu plus vite. Paul arrive à Éphèse. C'était merveilleux ça. Paul arrive à Éphèse. Parce que Dieu lui a montré un Macédonien qui avait besoin de Dieu. Alors, une femme se convertit. Puis, sur le marché, acte 16, il y a une femme qui se lève et qui dit, ces gens-là, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. C'est vrai. Ils vous annoncent la voie du salut. C'est vrai. C'était vrai, mais c'était prononcé par un faux. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il a chassé cet esprit. Il n'a pas dit, oh, c'est merveilleux. Regardez, on a une publicité gratuite à Éphèse. Rendez compte, cette femme qui est bien connue partout, elle parle de nous. Qu'est-ce qu'on va voir comme monde à La Réunion? Il a dénoncé la rue satanique. Et qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a reculé? Et qui c'est qui a avancé? Ça fait combien? 4-0. Vous voulez un pénalty? Allons-y pour terminer. L'apôtre Paul arrive à l'île de Malte après avoir essuyé une tempête terrible. Et là, pendant qu'ils font une petite braise pour se chauffer, que tout le monde travaillent pour ramasser du bois, parce qu'ils sont quand même près de 300. Hein. Il n'y a qu'une seule vipère dans le coin. Il n'y a qu'un seul virus dans le coin. Et il n'y avait pas de vaccin anti-piqûre de vipère. La vipère sœur est mort, l'apôtre Paul. Croyez-vous que c'est vrai ? Oui. Tout le monde disait, cette fois-ci, ça y est, c'est fini, il est perdu, il va enfler, il va mourir. Ce sont des faux prophètes. Et qu'a fait Paul ? Il est resté paisible. Il a secoué sa main et le serpent est retourné dans son lieu. Quel feu ! Qui c'est qui a gagné ? Ça fait combien ? 5-0 ! Alors je pense qu'on pourrait tous, ils auront dû tous chanter, on a, mais c'est pas très convaincu, hein. Mais ceci pour vous montrer, mes frères et sœurs, que chaque fois que Jésus a eu face à lui, ou que les apôtres ont eu face à lui des séducteurs, ils ne se sont pas laissés séduire, ils ont dévoilé le péché, et ils ont été vainqueurs. Ne vous laissez pas séduire, dit le Seigneur. Mes frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention sur ce que Dieu, dans sa grâce, est capable de faire quand Israël a été poursuivi par Pharaon. Vous savez que Pharaon a dit, allez, allez adorer votre Dieu, ils allaient s'y aller. Et lorsqu'ils sont partis, juste après, il a envoyé une armée. Et là, ce n'était pas de la séduction, là. C'était vraiment de la destruction. Et Israël est coincé entre la mer et l'Égypte. Et ils savent très bien que les soldats égyptiens ne vont pas faire de cadeaux. Nous sommes d'accord. Ils sont là. D'un côté, il y a la mer où ils peuvent être noyés. Et de l'autre côté, des soldats où ils peuvent être assassinés. Eh bien, qu'est-ce que fait Dieu ? Vous savez, il ouvre... Vous croyez ? Moi aussi. Il ouvre la mer Rouge. Un jour, j'étais pris par un pasteur chloroformé, membre de l'église chloroformée. Je ne sais pas si vous connaissez cette église-là. Et comme c'était une réunion où chacun devait expliquer sa foi, il dit, écoutez, Moïse Arou, là, je ne peux pas vous laisser continuer. Ce n'est pas un miracle, c'est simplement une histoire. C'est un fait qu'on peut expliquer. Mais ce n'est pas un miracle. La mer ne s'est pas ouverte. Mais non. Il y a eu une marée basse, comme nous avons en Normandie, parce qu'on était en Normandie. Il me dit, regardez, à Trouville, à Cabourg, la mer se retire très loin. Alors, il y a eu une marée basse, il y a eu 30 cm d'eau, et puis ils ont passé. Et là, mes frères et sœurs, je lui ai dit, en riant, alors, mon frère, tu as encore plus de foi que moi, car noyer toute une armée dans 30 cm d'eau, faut quand même le faire. Vous ne croyez pas, vous ? Chaque fois que les gens veulent prendre Dieu stupide, la stupidité se retourne contre eux. Alors qu'est-ce que Dieu va faire ? Le peuple est bloqué entre deux choses. Deux puissances de mort. Bien, mes frères et sœurs, ce qui a été englouti par les eaux, ce n'est pas le peuple, c'est les ennemis. L'armée de Pharaon a été engloutie. Notez bien ce mot, engloutie. La Bible nous parle d'Élie, qui demande à Dieu que le feu de Dieu descende. Vous connaissez cet endroit-là ? Eh bien, il est écrit que lorsque le feu de Dieu est descendu, le feu de Dieu a englouti tout le reste. Parce que chaque fois que le Seigneur est en face d'une difficulté, c'est lui qui a la victoire et la difficulté est totalement vaincue. C'est toujours le céleste qui gagne sur le terrestre. C'est toujours Dieu, mes frères, c'est ça. Et cet après-midi, vous et moi, nous pouvons dire à la mort et ce virus, ô mort, où est ta victoire ? Où est ton aiguillon ? Christ a vaincu la mort. Et nous sommes venus ce soir pour confesser que Jésus a vaincu la mort et qu'il est ressuscité, que son saint nom soit béni. Si je m'arrête sur 1 Corinthiens 15, 54, l'apôtre Paul écrit, la mort a été engloutie. Jésus rencontre le péché, il l'enlève. Jésus rencontre la mort, il l'enlève. Jésus rencontre les démons, il les chasse. Et ce Jésus, il est là ce soir. Alors, ne nous laissons pas impressionner. et nous ne nous laissons pas séduire. Dans un monde difficile comme aujourd'hui, même mes frères et sœurs, les grandes eaux ne peuvent en rien contre la grâce de Dieu. Alors, nous allons rejoindre, si vous le voulez bien, pendant quelques secondes, le deuxième livre de la Bible pour aller à la cour du roi Pharaon qui demande à Moïse ce qu'il est venu faire, et Moïse lui a répondu qu'il est venu lui dire « Délivre mon peuple ». Eh bien, regardez, il y a quelque chose de tout à fait curieux et remarquable. Exode, deuxième livre de la Bible, chapitre 7, versets 11, 12 et 13. Je commence la lecture si vous le voulez bien. « Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent toutes leurs verges et elles devinrent des serpents. » Attends là. Qu'est-ce que nous avons là sous les yeux? Ce qui s'appelle une imitation. Quand le diable ne peut pas s'opposer, il nous imite. Il a l'apparence. Et avec l'imitation, il essaye de nous stériliser. Ils font comme nous. Et ça, c'était vraiment la ruse. Toi, Pharaon pouvait dire, toi, quelle différence qu'il y a entre toi, Hébreu, et nous, Égyptiens, nos sages et nos magiciens font comme toi. Nous vivons dans une période où aujourd'hui, frères et sœurs, si on ne veille pas, nous allons nous laisser séduire par ceux qui nous imitent. Vous savez, je crois que c'est Paul qui dit, dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des moments très faciles. C'est facile ou c'est difficile? Il y aura des jours difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, violents, etc., etc. Et vous avez vu la fin? Ayant la apparence, la forme de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Et je disais tout à l'heure que notre virus, mes frères et sœurs, c'est de ne pas nous laisser séduire par tout ce qui a de l'apparence. Ils chantent comme nous, ils lisent comme nous, mais ce n'est pas des frères, ce n'est pas des sœurs. Ce sont des faux. Ce sont des vrais faux. Je dirais même des faux faux. Ou alors des faux vrais. Moïse a vu que les magiciens faisaient comme lui, l'imitaient. Et alors il va être neutralisé. Pensez-vous, regardez, vous avez votre Bible ouverte? Alors je trouve que c'est formidable, c'est le verset 12. Ils devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron, elle, engloutit leur verge. Qu'est-ce qu'a gagné là? Dieu ou les magiciens? Vous remarquerez que ce texte nous apprend que c'est encore Dieu qui a gagné. Et qui est notre Dieu? Le Dieu de Jésus-Christ. Et si ces textes sont là, c'est pour nous remplir de cette conviction que ce n'est pas nous qui allons être engloutis par les virus, par le mal, par les difficultés, mais c'est par la grâce de Dieu que nous allons être plus que vainqueurs. D'ailleurs, si vous avez encore votre Bible ouverte, vous tournez juste une petite page et vous arrivez à Exode 8. Et vous allez voir le comble. C'est que les magiciens qui essayent d'imiter Moïse, eh bien, ils sont obligés de dire au verset 15 ceci. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est ici le doigt de Dieu. Ils sont obligés de reconnaître que ce qui est derrière Moïse, c'est la main de Dieu. Ma sœur, mon frère, ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas abattre par les persécutions, hein, par les séductions, par la contamination des vérités. Mais toi, demeure ferme dans ce que dit la parole de Dieu, du Dieu vivant et vrai. Parce que, regardez, comment les ennemis, vous allez répondre à ma question, hein, comment les ennemis d'Israël ont-ils répondu lorsqu'ils se sont trouvés devant Pharaon ? Vous avez les mages et vous avez Moïse. Comment les mages et les magiciens ont-ils répondu ? Est-ce qu'ils ont répondu en disant « Ah ah, Moïse, c'est un rigolo !» Non. « Ah, Moïse, c'est pas grand-chose !» Non. Ils ont répondu et ils ont résisté à Moïse par une imitation. Mes frères et sœurs, ça, c'est la ruche de Satan aujourd'hui. Nous imiter, imiter le véritable. Mais notre force n'est pas dans l'imitation, elle est dans la vérité. Et si nous confessons la vérité, nous pouvons bénir Dieu de ce que nous aurons une parfaite et totale victoire. L'Écriture nous dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Est-ce que vous croyez cela ? Que ceux qui le croient disent Amen un peu plus fort malgré le masque. Oh bon. Mais cette même Bible nous dit, dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Dans les derniers temps, il y a la séduction, mais il y a aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Or, frères et sœurs, regardez bien que chaque fois qu'il y a eu un face-à-face avec l'ennemi, celui qui a toujours été vainqueur, totalement vainqueur, c'est le nom de... Et il ne faut pas l'oublier, il faut chanter au culte, il faut prier et toujours dire « Père, exauce-nous au nom de... » Oui, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il se manifestera de faux Christ, mais pour nous, c'est le Christ de l'Évangile. Alors, pour terminer, Paul va dire à Timothée, « Timothée, on vit des moments difficiles, mais toi, Timothée, je te donne 5 conseils. » Je voudrais terminer là-dessus, mes frères et sœurs, pour ne pas tomber dans les pièges et être vainqueur et apporter la bénédiction dans nos maisons, pour qu'il y ait une différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne croit pas. Du temps d'Israël en Égypte, la nuit était dans toutes les maisons, mais dans les maisons d'Israël, il y avait de la lumière partout, parce que le sang de Jésus les protégeait et les gardait, nous sommes d'accord. Alors qu'est-ce qu'il dit Paul à Timothée dans son épître ? Dans un deuxième épître, chapitre 3, il dit « Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Ne te trompe pas, sache-le. » Jacques, l'apôtre Jacques, écrira et dit « Mes bien-aimés !» C'est un langage qu'on emploie souvent ici, les bien-aimés. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut faire attention quand on dit bien-aimé. Ça veut dire que toi, ma sœur, toi, mon frère, tu es bien aimé de Dieu. Et si tu es bien aimé de Dieu, tu aimes aussi tes frères et tes sœurs de la même façon. Alors quand on dit « mais bien aimé », soulignez la puissance qu'il y a derrière ces mots. Mes sœurs et mes frères qui êtes aujourd'hui peut-être dans la crainte, vous êtes des bien aimés de Dieu. Et parce que vous êtes des bien aimés de Dieu, ne craignez point, il prendra soin de vous et vous aurez une totale victoire. Ne vous y trompez pas, dira Jacques. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent des laboratoires pasteurs. Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père des Lumières et qui descend. L'Écriture nous dit, non pas ce qui monte, mais ce qui descend, comme ma feuille, vous voyez ? Elle descend. Tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui croient cela ? Alors cet après-midi, il y a quelque chose qui descend sur nous. Tout don parfait. Ne vous trompez pas, mes frères et sœurs. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas le virus qui vient pour nous taper dessus. Tout don parfait descend du Père des Lumières pour nous donner la grâce. Ne nous trompons pas d'ennemis. Notre ennemi, ce n'est pas Dieu. Notre ennemi, ce n'est pas Jésus-Christ. Notre ennemi, c'est Satan. Et ce Satan, il a été vaincu, dépouillé, déchiré, livré en spectacle. Alors, prononçons aujourd'hui, ce soir, la victoire de son nom. Ça, c'est la première chose. Sache, ces choses. Au verset 6, il est écrit « Maintenant, éloigne-toi de ces soi-disant docteurs qui ont des révélations comme tu n'as pas eu. » Et je le disais l'autre dimanche, après-midi je crois, ici. Internet, le Covid, et cet après-midi j'ai apprécié que mon frère Christophe le souligne, va mettre en évidence certaines choses à notre milieu. Mes frères et sœurs, il y a des faux, qui s'intègrent parmi le peuple de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il y a des faux qui s'intègrent parmi le peuple de Dieu qu'on doit laisser le peuple de Dieu. Ce n'est pas à nous de sortir, c'est à eux de sortir. Et Paul dira, verset 6, « Éloigne-toi de ces hommes-là. Prends position. Ne dis pas, Seigneur, éloigne-moi d'eux. Éloigne-toi, toi, prends la décision. Pas de contact avec ça. Pas de pacte avec Satan. C'est pas possible. Éloigne-toi de ces gens-là. » Et l'apôtre va ajouter, ce sont des faux docteurs qui s'opposent à la vérité. Et là, pour la première fois, on trouve deux noms qui n'existaient pas dans l'Ancien Testament. Vous savez, je disais tout à l'heure, quand Moïse a lancé, lorsque la verge Aaron a été lancée et qu'elle est devenue un serpent, les magiciens ont fait absolument pareil. Ils ont essayé d'imiter, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils se sont opposés en l'imitant. Mais que nous apprend ce texte aujourd'hui ? Il s'oppose à la vérité, il entraîne les gens mal affermis, et c'est le problème d'Internet, je le disais tout à l'heure, où vous avez tout un tas de cultes en direct. Vous l'avez remarqué, ça, hein ? Ouais, moi aussi. Parce que pendant le confinement, on ne pouvait plus aller au culte. Donc j'ai regardé. C'est vrai qu'il y avait à boire, c'est vrai qu'il y avait à manger, et c'est vrai qu'il y avait de quoi s'empoisonner. Ce que j'ai entendu, je ne vais pas dire, mais enfin, c'est abominable. Et ce qui m'a fait mal, c'est que des chrétiens ensuite m'ont téléphoné pour me dire « Ah, c'est quand même mieux que chez nous !» Je ne parle pas forcément d'ici, hein. C'est quand même mieux que chez nous, voyez-vous, il y a ça et ça. Et j'ai eu beau leur expliquer, Bible en main, que c'est une séduction. Je sentais déjà que l'adversaire les avait marqués. Et voyez-vous, ce soir, ils ne sont pas là. Oui, c'est vrai que la technique Internet, c'est une belle chose. Dans la mesure où ceux qui la touchent sont sanctifiés. Sinon, ça devient un poison. Ça devient un porteur de mort. Et alors, c'est vrai, tous ces cultes qui ont été retransmis, tous ces prédicateurs avec des noms à particules, ces ministères internationaux, devant lesquels Jésus, vraiment un petit Jésus, j'en ai vu un qui a parlé pendant 1h05, pas une seule fois, il a prononcé le nom de Jésus. Mais moi, je fais. Et tout cela doit nous alerter. Paul dit, éloigne-toi de ces gens-là. Mes frères et sœurs, si vous avez ça sur votre Internet, allez couper, mettez de côté. Une seule chose, c'est ce qui est écrit, car je vais vous le dire. L'apôtre Paul dit, ne vous trompez pas, éloigne-toi de ces faux docteurs, car ils ne feront pas de plus grands progrès. Ça, c'est formidable, ça. Ils ne vont pas gagner, ils ne vont pas progresser. Qui c'est qui va gagner ? Qui c'est qui va progresser ? Ceux qui suivent la parole du Dieu vivant et vrai. Et Paul dira à Timothée dans ce même chapitre, « Demeure dans les choses que tu as apprises. » Alors, on se pose, lisez le chapitre 3, voyez, c'est intéressant. Et Paul va dire, « Tu connais depuis longtemps les saintes lettres, les Écritures qui étaient chez ta maman. » Chez ta grand-mère, demeure dans les choses que tu as apprises. Suis l'exemple que tu as vu en moi et la grâce de Dieu sera avec toi. Mes sœurs et mes frères, vous vous êtes convertis non pas à l'église Rencontre Espérance, vous vous êtes convertis à Jésus-Christ. Vous êtes convertis à la parole de Jésus-Christ. Parce que dans cette église, la parole de Jésus-Christ y est annoncée. Et c'est ce qui a changé votre vie. C'est vrai ? Et l'Écriture nous dit, verset 10, pour toi, Timothée, tu t'éloignes de ça. Tu n'écoutes pas ces gens-là. Pour toi, demeure dans les choses que tu as apprises de l'Écriture et prêche. Prêche, annonce, proclame quoi ? Que nous sommes dans la vérité ? Non, non, prêche la parole. Que Dieu suscite parmi nous des témoins, des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit peuvent parler à des voisins, à des voisines de la miséricorde et de la parole de Dieu. J'ai mon voisin qui est venu me voir l'autre jour, la femme de mon voisin qui téléphone en me disant « Monsieur Haroux, je suis désolé, je vous téléphone. Parce que mon mari est très malade. Est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui touche ?» Qui touche malade ? Oui, je l'ai laissé par terre. Quelqu'un qui touche les malades. Je vais me dire ça à moi. Mais c'est merveilleux ! Ah bon ? Non, non, je ne touche pas. Mais je connais quelqu'un qui touche. Et je peux vous assurer, quand il touche quelqu'un, la personne est guérie. Ah, oh, qui c'est, qui c'est ? Je vais vous dire. Vous êtes assis, asseyez-vous. C'est assis. Ah, regardez, il dit, celui qui nous touche, et quand on est touché par lui, on n'est plus les mêmes. Le caractère change, les yeux changent, l'amour change, et les malades sont guéris. Je dis, c'est pas possible. Alors je lui dis, allons voir votre mari, je vais vous dire quand vous serez tous les deux. Alors elle m'a amené, c'était un voisin, un brave homme, et il souffrait terriblement d'un zona depuis là jusque dans le bas. Et frères et sœurs, je lui ai dit, est-ce que vous voulez que Jésus vous touche ? Vous ne comprenez pas, il mélangeait tout le monde. Alors je lui explique qui est Jésus, quelques mots. Je lui ai dit, maintenant, je vais prier, et c'est Jésus qui va vous toucher. Mes chers amis, le zona a disparu immédiatement. Parce que, c'est pas moi, mais le nom de Jésus. Oh mes frères et sœurs, nous les pasteurs, nous ne sommes que des noms, des hommes et des femmes comme vous, mais le nom de Jésus, il est plus haut, il est plus fort, il est plus admirable, il est plus merveilleux, et quand tu le prononces, les démons reculent, les démons chancellent, et Satan est vaincu, et la bonne nouvelle est annoncée. À l'église de Philadelphie, Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? À l'église de Philadelphie, il a fait un beau compliment, vous ne trouvez pas ? Ben, je vais vous aider. Parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as gardé la persévérance, moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les hommes, les habitants de la terre, et le temps approche. Parce que tu as gardé ma parole. Frères et sœurs, si vous êtes là cet après-midi, c'est parce que vous aimez la parole. Si nous sommes là cet après-midi, c'est pour nous entretenir de la parole. Parce que tu as gardé ma parole. Et le fait de garder sa parole est essentiel pour la suite, car il est écrit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevez. Est-ce que vous croyez que c'est vrai ? Mais avez-vous eu ce qui est écrit avant ? Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Deux, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et Satan essaie de nous dire, dit, tu vois, c'est écrit ça, demandez, vous recevrez. Mais il oublie de nous expliquer qu'avant, il y a un autre texte. Il faut prendre le texte dans son ensemble. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans mon amour, si vous demeurez dans ma parole, alors tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Est-ce que c'est vrai ? Voulez-vous que nous ayons un instant de prière ?